c'est Mathieu Média. Mathieu Conforama ce matin, parce que j'ai su meubler de façon extraordinaire. On m'appelle aussi, chers auditeurs, sachez-le, on m'appelle aussi dans la réaction Mathieu Bouclette. Bienvenue sur Europe 1. Notre slogan, notre nouveau slogan sur Europe 1, on s'adapte, ce n'est plus écoute le monde changer, c'est Europe 1, écoute le monde tousser. Et je le dis en présence bien sûr de Jimmy Mohamed, notre docteur maison. L'an dernier, on a eu les grèves, le coronavirus, le confinement et c'est vrai, l'habitat Griveau. Cette année.
Oh non, là,
c'est un best-of.
Cher auditeur, c'est un bon teaser.
Tu parles.
Comment faire mieux cette année?
Cette année, on espère faire aussi bien, chers auditeurs. À mon avis, vu comme ça progresse, on peut miser sur des mouvements sociaux, sur une invasion de sauterelles, Godzilla qui attaque Paris et une sextape de Jean-Michel Blanquer déguisé en Pikachu. Bref, c'est une rentrée, chers auditeurs, une rentrée exceptionnelle sur Europe 1 avec plein de nouveautés. Et puis, disons-le, il faut dire les mots, Julie, il faut dire les mots, Jimmy. Et puis des stars, puisque vous l'avez entendu. Stéphane Bern, le grand Stéphane Bern, nous a rejoint et nous rejoindra chaque matin.
Oh, quelle présentation! Bonjour, ma chère Julie, bonjour, mon beau Mathieu.
Bonjour,
oh,
Stéphane.
Comme ça vous va bien, mon Mathieu, le serre-tête de tennisman. Ah non, pardon, c'est votre casque radio. Non, je ne le voyais pas perdu dans vos cheveux gras.
Oh là là, allez,
oh, je vous taquine, je suis taquin. Non, remettez votre masque, ça cache votre vilain bouc. Oh, je vais le rendre chèvre. Allez. Oh, tiens.
Bravo!
Oh mais je ne vais pas vu que j'ai équipé le studio. Regardez,
on a
studio.
Des séparations, mais oui.
Ça, c'est des plexis.
Oui.
Ah, d'accord, non, je croyais que c'était des vérandas. Je croyais que c'était des vérandas.
Oh, mais écoute.
Akena, la pute des vérandas.
Oh, mais c'est pas la. Mais enfin, Stéphane, ça va pas, c'est la reine des vérandas.
Non, c'est pas la reine des vérandas, c'est la pute des vérandas. Ils m'ont viré, ces cons-là.
Ah bon?
Ils ont pris une nouvelle égérie. Ils ont pris mon ennemi juré, Franck Ferrand et Chantal Latsou.
Oui, c'est vrai.
Pour faire la pub à ma place.
Oui, alors, on est vert.
Non. Oui, c'est moi qui ai plus de sous, du coup. Je suis obligé de faire des chroniques à la con sur Europe 1 à 7h du matin. Vous y croyez, ça? Non, mais c'est pas vrai.
Écoutez, on est content de vous avoir tous les jours, hein, cher Stéphane.
Oh, mais moi aussi, non.
Bon, ben voilà.
Plaisanterie mise à part, je suis ravi. Enfin, ravi. Faut le dire vite. Éric Dupond-Moretti se rêvait chroniqueur sur Europe 1 et il devient ministre. Moi, je me rêvais ministre du patrimoine. Ça m'aurait bien été. Ouais, sur la carte de vie, j'ai pris moi et je finis pauvre chroniqueur sur Europe 1.
Oh, non. Ça va, oui.
J'ai envie de le dire, chienne de vie. Oh oui, je me lâche, chienne de vie. D'ailleurs, je vous expliquerai, cher Jimmy, puisqu'il me regarde avec deux yeux ahuris, l'expression chienne de vie. D'où vient-elle, cette expression? Eh bien, le 17 juin 1796, une chienne bâtarde, croisée entre un teckel et un labrador, se promenait dans les allées du château d'Asile Ridon, entre deux allées de buis, lorsqu'un furet tout à coup.
Voilà, écoutez, bon, c'est bon, merci Stéphane.
Non, mais attendez, on m'a dit Europe 1, le premier sur l'info de 1793, oui, le 16, je précise.
Bon, écoutez, voilà, alors.
Je vous coupe, l'info vient de tomber.
Quoi?
Louis XVI est mort.
Oh, merci Stéphane, ça ira
premier
pour aujourd'hui.
Premier sur l'info, allez. Europe 1, oui.
Stéphane Bern dans ses œuvres. Allez, à demain. Puis cette fois, c'est la vraie rentrée. Nous sommes au complet ce matin et nous accueillons notre président Emmanuel Macron. Bonjour à vous.
Ah. Oui, pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Une petite serviette, s'il vous plaît. Oui, merci, Jimmy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Je fais vite parce que j'ai mon jet ski qui est garé en double fil sur la Seine. Alors, c'est bien d'être quai André Citroën parce que ça me permet de me garer en jet ski. Alors, je vois que contrairement.
Vous êtes essoufflé, vous.
Pardonnez-moi, mais c'est du sport. Je vois que contrairement à moi, on n'a pas remanié l'équipe. Hein, Mathieu Béliard, Cabrol, Leclerc. Écoutez, c'est finalement, c'est pas idiot ce casting maintenu parce que je me demande si j'ai bien fait, moi, de remanier.
Ah oui, vous êtes séparé d'Edouard Philippe, vous, hein?
Oui, mais écoutez, l'été arrivant. J'ai fait comme certains Français un peu lâches, cher Julie Leclerc. J'ai abandonné mon dalmatien, mon Édouard Philippe. Je l'ai accroché à un arbre sur une route du Havre. Écoutez, franchement, tant qu'il revient pas en 2022 me pisser sur le tapis de l'Elysée. Et puis bon, vous l'avez vu, j'ai mis l'autre, là, Jean Castex à la place. Voilà. Ouais. Ben, que voulez-vous? Parfois, on fait un mercato, on rêve de recruter Messi, et puis on se retrouve avec Jean Castex.
Eh bien justement, le voilà. Bonjour Jean Castex. Nicolas se lève.
Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bien entendu, bienvenue, c'est une parole déplacée puisque c'est vous qui me recevez. Je suis très heureux d'être ici dans les locaux d'Europe 1, puisque vous le savez, je suis un élu local. Je suis un homme de territoire et donc je viens sur votre terrain. Je me présente.
Ben on n'est pas couché.
C'est
hein.
La moindre des choses. Jean Castex, l'homme qui a révolutionné, dit-on, la ponctuation de notre belle langue, puisque je n'utilise pas des virgules ni des points-virgules, mais des canyons entre chaque mot et parfois même chaque syllabe. Un point pour Monsieur Caron. Alors, j'en profite pour m'adresser à papy et à mamie. En l'occurrence, à Monsieur Cabrol et Madame Julie.
Ça va,
oui. Bonjour à tous vos auditeurs. Alors, vous allez me dire, pourquoi mettre autant de temps? Bonjour à Monsieur Vandel. Pourquoi mettre autant de temps entre chaque mot? C'est l'expérience qui joue en ma faveur, j'ai constaté que lorsque vous mettez une minute entre chaque mot, vous avez une minute pour réfléchir au mot qui suit et éviter par là même de dire des conneries.
Ah ben dis donc, c'était
comme
laborieux.
Comme on dit parfois, je ne citerai pas.
Alors, c'est bon, allez, oui. On va vous laisser, non?
Oui, parce que là, c'est à vous de reprendre la main. Oui, alors, voilà.
Laissez mon Castex. Oui, c'était à moi, pardonnez-moi. J'étais en train de démarrer le jet ski. Oui, laissez mon Castex, France, qui vous voyez bien que mon Castex n'est pas prêt.
Mais pourquoi vous l'avez nommé Premier ministre, alors, s'il n'est pas prêt?
Mais pour qu'il remplisse pleinement la mission que je lui ai donnée, être plus bas que moi dans les sondages, voilà. Et là, je peux vous dire qu'il a une bonne tête de vainqueur. En fait, vous savez quoi, Jean Castex? C'est une espèce de Jean Lassalle.
Oula.
Mais en douché et à jeun.
Mais vous êtes fou de balancer comme ça. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, oui. Allez, il devait être notre chroniqueur star cette année sur Europe 1. Finalement, il a préféré être ministre. Éric Dupond-Moretti, bonjour. On y va ?
Je ne suis plus Madame Julie. Mmh. Je vous le dis, je ne suis plus Akitator. Je suis Fulminator. Je fulmine. Jamais content. Madame, l'homme que vous venez d'attaquer, lâchement, bassement, je le connais. Et certainement mieux que quiconque autour de cette table. Je défends un homme aujourd'hui. Qui est-il cet homme? L'homme le plus attaqué de France. Eh bien cet homme, c'est moi. Je me retrouve en défenseur de ma propre personne. Mon client, Monsieur Éric Dupond-Moretti, n'a pas, je cite, votre petit ton désagréable. Madame Julie n'a pas préféré, comme vous le dites, être ministre. Il a simplement accepté, modestement, avec abnégation, il a préféré accepter de servir son pays. Puis, parlons-nous franchement.
Oui, allons-y.
Entre vous et moi, quitte à ce qu'un chroniqueur d'Europe 1 devienne ministre, il vaut mieux que ce soit moi que je ne sais qui, M. Cabrol, par exemple. Imaginez, M. Vandel, imaginez un instant Laurent Cabrol, oui, disons les mots, ministre de la Justice.
Tiens, pourquoi pas.
On irait où, on ferait quoi? Je pose la question. On aurait quoi, le droit de rouler avec 7 grammes dans la route de campagne? C'est ça que vous voulez? Eh bien, je vous souhaite beaucoup de mieux pour mon pays, madame. Julie.
Mais qu'est-ce qu'il prend, Laurent Cabrol? Bon, quand même, en 2018, vous affirmiez. Monsieur Dupond-Moretti, vous affirmiez en 2018, jamais je n'accepterai d'être ministre. Vous l'avez
objection,
dit ça.
Objection, madame. Mon client, Éric Dupond-Moretti, n'a jamais dit cette phrase. En tout cas, s'il a dit, c'est qu'il avait une bonne raison.
Ah bon, laquelle?
Eh bien, il pensait que jamais on ne lui proposerait
les autres ministres. Ben...
Et puis il y a aussi cette polémique hein, concernant vos propos sur les ayatollahs de l'écologie. Hein.
Je te souviendrai là-dessus. Objection, madame. Mon client Éric Dupond-Moretti n'a jamais dit cette phrase. Hein bon, écoutez, j'en peux plus. Hein. J'ai accepté le poste de ministre pour ne plus être avocat et je me retrouve à devoir prendre ma défense en permanence.
Bon, attendez.
Ça, c'est pas très drôle en fait. Aujourd'hui,
non, mais il fait peur.
Je la sentirai de ma baignoire des bouches. Je la biffe.
Allez, pour terminer, un petit mot du Tour de France. Nelson Montfort, bonjour. Alors, on a quand même de sérieux candidats à la victoire finale. Hein.
Ouais.
Thibaut Pinot, par exemple. Hein,
ouais, écoutez, Thibaut Pinot qui a très bien débuté ce Tour de France, puisque dès la première étape, il s'est cassé la gueule comme un patineur français. Décidément, il est véritablement multisport. Bon, une belle vautrade avec quasiment toute son équipe. La barre est haute cette année. Tiens, je vois Richard Virenque qui approche de mon micro. Une explication, s'il vous plaît, Richard, une explication à toutes ces chutes, mon cher Richard.
Bon, ben, écoutez, c'est vrai, Nelson, que c'est plutôt Laurent Cabrol qui aurait dû les prévenir. C'est vrai que c'est sa fête, hein, Lolo.
Ah,
non, c'est vrai que des plaques de verglas au-dessus de Nice en 29 août, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau du réchauffement climatique.
Bon, c'est un Tour de France un petit peu particulier quand même, hein, avec beaucoup de nouvelles têtes. Quel est le conseil de l'homme d'expérience que vous êtes, Richard Virenque?
L'homme d'expérience, j'ai envie de leur dire, le dopage, c'est bien, c'est la base du cyclisme. Mais je serais heureux pour éviter les chutes, essayer plutôt d'apprendre un peu à faire du vélo avant.
Sonia Mabrouk est son invitée.
Oui, monsieur le garde des Sceaux, je suis allé plusieurs fois sur le mot ensauvagement. Vous n'avez pas repris à votre compte le mot ensauvagement. Pourtant, je suis allé vous chercher sur le mot ensauvagement. Vous n'avez pas repris ce mot ensauvagement à votre compte, monsieur le garde des Sceaux.
Écoutez, madame, ce n'est pas l'habitude pour moi d'utiliser ce mot. Ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas dans mon champ lexical. Donc je n'utilise pas ce mot. Voilà, laissez-moi cette liberté.
Oui, mais enfin, l'ensauvagement, c'est quand même un thème récurrent, un thème de la droite. Même le ministre intérieur avec qui vous collaborez utilise le mot ensauvagement. Vous n'avez pas sur le mot ensauvagement. Pourtant, je vous ai tendu le piège sur l'ensauvagement. Vous n'avez pas mon piège sur l'ensauvagement. Ça m'embête de ne pas répondre sur l'ensauvagement.
Écoutez, madame, ce n'est pas dans mon champ lexical. Certains utilisent ce mot. Je n'utilise pas ce mot. Écoutez, madame, laissez-moi terminer. Il nourrit pour moi ce mot, l'ensauvagement, le sentiment d'insécurité. Vous savez, je vous dire une seule. Écoutez, madame.
Oui, mais monsieur le garde des Sceaux.
Écoutez, madame.
Monsieur le garde des Sceaux.
Oui, mais écoutez, madame.
Monsieur le garde des Sceaux.
Écoutez, madame, je vous dis une chose. Aujourd'hui, quand on a autrefois on apprenait un crime, maintenant on apprend 50 crimes. C'est la surenchère. Les médias, les réseaux sociaux, les chaînes info, on apprend 50 crimes, c'est la surenchère, on en rajoute en permanence.
Oui, mais enfin, monsieur le garde des Sceaux, quand même.
Donc, excusez-moi de rentrer sur votre cours de tennis, excusez-moi d'interrompre votre partie. Maître Dupond-Moretti, on arrive au bout de cette interview. Vous êtes, depuis que vous êtes ministre, on vous appelle maître. Non. Quelle question conne. J'étais nommé ministre, on appelle monsieur le ministre. Par maître. Est-ce que vous, monsieur Béliard, je vous appelle Nikos ou Thomas Soto? Non.
Je t'avais dit de ne pas aller chercher, je t'avais dit qu'il était mougon ce matin, Mathieu. Oh,
c'est
à
bon,
Julie.
Merci, Sonia. Allez, Mathieu, c'est encore à vous. Hein.
Oui, bonjour Julie, bienvenue. Bienvenue, bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard, l'info du jour. L'info du jour, aujourd'hui, on l'a appris il y a quelques heures, c'est l'entreprise Lafarge qui a été surprise en flagrant délit en train de polluer la Seine en rejetant dans le fleuve du ciment et du plastique. Donc on prévient nos auditeurs et particulièrement notre président de la République et Emmanuel Macron, passionné de jet ski. Pas de baignade et pas de jet ski dans la Seine dans les jours et peut-être les semaines qui viennent. C'est vrai que c'est dommage, la Seine était tellement propre avant, c'était un peu on a parlé avec Laurent, c'est un petit peu les Maldives, la Seine c'était Maldives. Je propose qu'on nettoie tout ça parce qu'il faut trouver des solutions à tout. Je propose qu'on verse 20 000 litres de gel hydroalcoolique dans la Seine. Voilà, ça se tend.
Oui.
Voilà. Et puis l'autre info, chers auditeurs, ce sont les amendes forfaitaires pour les petits consommateurs de drogue. Ils devront payer 200 euros tout de suite.
200 euros le bout de shit. À Paris, vous l'avez compris, il n'y a pas que l'immobilier qui explose. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Plus de 20 heures de retard et 25 heures ou 26 heures de trajet. On va revenir sur ces milliers de voyageurs bloqués au départ de Dax, de Bordeaux ou de Biarritz. On est avec notre responsable SNCF, monsieur Régis. Bonjour.
Oui, bonjour.
Dites-moi, c'est inadmissible hein, ce qui s'est passé.
Oui, bonjour à tout le wagon.
Oui, d'accord.
Ouais, ouais. Ben voilà, c'est la rentrée pour nous aussi. On s'est remis au travail pour vous pourrir l'existence. Bah écoutez, franchement, soyez réalistes. Une rentrée où la scène se fait ne gâche pas la vie des gens. C'est pas une vraie rentrée.
Enfin,
alors...
les usagers étaient furieux, puis on les comprend d'ailleurs.
Oh, minute, papillon. Ça va bien l'agressivité, la blondasse, là-haut. Ça arrive à tout le monde d'avoir quelques minutes de retard.
Bon, enfin, c'est pas quelques minutes, on compte en heures, là. Hein. C'est 20 heures de retard.
Oui, oui, 20 heures, ça fait jamais qu'à peine 1200 minutes. Hein. Ça vous arrive jamais, vous, Béillard, de démarrer le journal de 9h à 9h01
ah, bah,
ou à 9h02 à cause d'un cabrol ou d'un
ouais.
autre qui ouais. dérape.
Ouais, Nicolas, ouais, ouais, Nicolas C, oui, d'accord. Non, mais attendez.
Citez pas de nom, pas d'attaque personnelle, tu vas regretter. La saison va être longue, la Julie.
Non, mais dites-moi, monsieur Régis, on n'a jamais eu 20 heures de retard. Là, vous parlez de 9h01, c'est risible, quoi. On a les témoignages de passagers qui se plaignent des conditions de vie pendant les 20 heures. Et je les cite, pas de bouffe, pas d'eau, pas de PQ.
Pas de bouffe, pas d'eau, pas de PQ. Et alors, je suis pas barman, hein, ni serveur, ni même pipi. Je suis cheminot. Hein. Mets-toi ça dans la tête, la blonde. Je suis un pilote. Je suis une espèce de oui, Jimmy Mohamed, une espèce de Lewis Hamilton. Je pilote, moi, je pilote un TGV. Le train le plus rapide du monde. Oh. Enfin, quand il roule. Là, on a fait quoi ? Un petit arrêt au stand.
C'est ça. Monsieur
on y a droit ?
Non, franchement, vous pourriez vous excuser auprès de ces milliers de passagers qui ont dormi dans le train.
Bah, pourquoi faire ? Bah. On a réinventé le train de nuit. Notez qu'on est élégant, la SNCF. Ils ont dormi gratos. On leur a même pas compté la nuit d'hôtel en sus. Des gentlemen qu'on
oui,
est.
Oui.
Ah oui, oui, oui. Au fait, la prochaine grève, c'est le 17 septembre.
Ah oui, on a appris ça, oui, oui.
Oui, on est désolé, on aurait aimé la faire plus vite, mais le temps qu'on rentre de vacances, qu'on défasse les valises, qu'on décompresse et qu'on se repose un peu, bah fallait bien 15 jours avant de retourner pour pas bosser. C'est... Bah oui, oh bah qu'on... Mais qu'est-ce qu'il y a à me regarder comme ça ? Elle comprend rien ? Oh la vedette ! Oh la vedette !
Merci !
Il y a une équipe de vedettes oui. cette année !
Mais c'est bon, monsieur Régis. Bon, il y avait donc des trains au départ de Dax, de Biarritz et de Bordeaux. On va écouter un témoignage, le témoignage d'un passager. Bonjour, monsieur.
Oui.
Comment vous avez vécu ces 20 heures bloquées à Bordeaux ?
Oh, bah écoutez, monsieur, madame, fort bien.
Mais attendez, mais c'est Alain Juppé ?
Oui, tout à fait, oui. Je suis heureux que vous connaissiez encore ma voix. Ça veut dire qu'elle n'a pas... trop bougé. Écoutez, bonjour à tous. Permettez pas de saluer vos auditeurs. Effectivement, j'ai été bloqué 20 heures, mais je relativise. Vous savez, ça fait 50 ans que ma carrière a été bloquée en mairie de Bordeaux. Bon, 20 heures de plus ou de moins, c'est très accessoire. Et puis, vous le savez, je devais rejoindre l'EHPAD, enfin l'EHPAD, pardon, le Conseil constitutionnel, où il n'y avait pas d'urgence extrême à se retrouver pour rien foutre, donc je reste philosophe.
Ah oui, on voit ça. Hein. À bientôt, Alain Juppé.
À bientôt, mais oui, très certainement. J'ai que ça à foutre.
Oui, mais oui, il a que ça à foutre, il dit. Selon un sondage IFOP rapporté par le Figaro, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est le favori des électeurs de droite pour 2022. Bonjour, Édouard Philippe.
Oui, bonjour. Angelina Jolie. Julie.
Angelina Jolie. Oh,
bonjour,
mal.
Monsieur Mathieu Bouclard. Béliard, pardon. Béliard, non, c'est à cause de vos cheveux. Vous devriez d'ailleurs venir au Havre, monsieur Béliard. C'est la dernière ville où des jeunes portent encore le bouc.
Alors, Édouard Philippe,
vous êtes... Je m'en témoigne, d'ailleurs. C'est vrai.
Édouard Philippe, je le disais, vous êtes le favori des électeurs de droite pour 2022. Vous allez vous présenter, alors, dites-nous.
Le frère du prou. Pas du tout, pardon. Si votre question est est-ce que j'y pense en me rasant, la réponse est non.
Hein, bon.
Vous en doutez, je ne me rase pas, vous l'avez constaté. Par contre, puisqu'on parle de ma barbe, est-ce que j'y pense en blanchissant ? Oui, un petit peu forcément.
Mais attention, hein, il va y avoir beaucoup de prétendants à droite. Hein.
Ah, bien sûr, il y a des prétendants à droite.
Bah oui,
ça c'est sûr. Bruno Retailleau, déjà.
Bah oui, lui, il s'est déclaré intéressé, Bruno Retailleau.
Et oui, et puis c'est pas rien, Bruno Retailleau. 42 ans de vie politique, et oui, quand même, hein, 42 ans, et 42 ans de vie politique, et on connaît toujours pas sa tête. C'est pas rien, Bruno Retailleau, c'est pas rien, c'est pas beaucoup non plus. Du coup, c'est vrai que maintenant, en y réfléchissant, j'ai peut-être ma chance.
Et puis dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de votre successeur, Jean Castex ?
Oh bah écoutez, c'est super. Non, franchement, super.
Ah bon ?
Non, moi j'adore les Baudins, donc forcément, je... J'adore Jean Castex.
Oh la vacherie, ce matin.
Écoutez, le président Macron l'a nommé pour se reconnecter avec les Français. La vraie France, quoi, la France terroir. Ça fait 2 mois déjà. D'ailleurs, ça a dû porter ses fruits. Il a combien en popularité? Parce que j'ai pas tout suivi, j'ai un peu déconnecté. Il est au-dessus de moi. Là. J'ai quitté. Je vais pas tricher, j'étais à 51. Voilà, il est à quoi? C'est 53, 54 peut-être ça?
Non, pas du tout. Non.
Plus 60.
Mais non,
il a
mais
passé
non.
60, la barre des 60.
Non, il est à 48 et il vient de perdre 7 points, dit dedans.
Ah. Ah oui, quand même.
Oui, ça marche.
Ah oui, quand même. Bravo, Jeannot. Vous voyez, il est aussi drôle que les Baudins, finalement.
Merci. Merci beaucoup, Édouard Philippe. À bientôt.
Non, ouais.
C'est donc. On se calme. C'est donc la rentrée des classes. Aujourd'hui, on va en dire un mot avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Ah bon ?
Oula, carrément.
Oui, bonjour à tous les redoublants. Bonjour, c'est Jean-Michel Blanquer, le French Lover de la rue de Grenelle.
Ah, le French Lover. Ah oui, c'est vrai qu'on vous a vu à la une de Voici, avec la brillante et ravissante Anna Cabana. Jean-Michel Blanquer, c'est
oui,
vrai ça, d'où la musique peut-être.
Sur la coupe de Voici, oui, effectivement. Je vous le confirme, j'étais en photo à côté de Brad Pitt et de Bradley Cooper.
Oh, il se la pète là, non mais oh.
Normal, quoi, le trio de beaux gosses. Alors moi, je précise pour les lecteurs de Voici, sur la couverture Brad Pitt, Bradley Cooper, moi je suis celui qui avait le slip bleu, pour ne pas me confondre avec Bradley Cooper. Oui, je sors avec Anna Cabana, la Penelope Cruz de BFM. Je peux vous dire que les autres au ministère sont verts, même les autres ministres, garçons.
Ah, d'accord, oui, mais on va entendu. Rester sur la politique peut-être, hein, d'accord
pris, alors, vous ça, prévoyez... C'est une journée de rentrée.
Vous prévoyez au besoin de faire classe dans les gymnases ou si on manque de classe, respectant la distanciation, même partout ailleurs. Monsieur Blanquer.
Oui, écoutez, on va faire la classe dehors, la classe dans la cour, la classe sur le terrain de foot, la classe sur le toit du collège. D'ailleurs, je pense qu'ils vont apprécier par Mistral à Marseille avec les classes en plein air. Non, je pense que ça va être un beau bordel. Mais vous savez, je m'en fous parce que je suis en couple avec la plus belle de l'école.
Oui, bon, ça va. Un mot du masque, il est obligatoire à partir de 11 ans chez nous. Alors pourquoi 11 ans? C'est 6 en Italie, 6 ans.
Alors pourquoi 11 ans?
Oui.
C'est la question que vous me posez.
Oui, oui.
Écoutez, très franchement, j'aime bien la transparence, donc je n'en sais rien. Il fallait trancher assez rapidement, donc je devais aller à la piscine Molitor avec ma meuf, la plus belle de l'école. Et donc, j'ai pensé sur 11 ans. Puis de toute façon, très franchement, entre vous et moi, à 6 ans, les gosses, c'est des microbes en Bermuda. Ils bouffent leur crotte de nez, ils se crachent dessus, ils s'échangent leur chewing-gum qui font tomber dans les chiottes. Non,
arrêtez.
Pas très réaliste, c'est des crados. Bon, je vous laisse parce que là, je dois aller brancher au Rins avec, ma douce, la plus belle de l'école. Et bon courage pour la rentrée.
Sonia Mabrouk et son invité.
Gérard Larcher, mon invité, vous êtes président du Sénat. Gérard Larcher, quid de votre famille politique? Quid de la droite? La droite va mal, la droite va très mal. On est inquiet, Gérard Larcher. Je ne dis pas que je suis de droite, mais je connais des gens de droite. Si la droite ne s'impose pas en 2022, que va-t-il se passer? Que va-t-il nous arriver? C'est une véritable inquiétude, Gérard Larcher. Répondez.
Oh non.
Sonia Mabrouk. Rassurez-vous, je ne veux pas d'un choix binaire en 2022. Je ne veux pas d'un choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Oui, mais la droite, je vous pose la question de la droite. François Baroin, mais qu'est-ce qui branle, François Baroin?
Sonia Mabrouk, je connais bien le monde rural.
Mais j'en ai rien à branler de ton monde rural. Moi, c'est la droite qui m'intéresse. Je suis du 16e. Ok, qu'est-ce qui va arriver avec la droite? D'ailleurs, est-ce qu'Emmanuel Macron a échoué, à votre avis, en termes d'insécurité?
Ah, Sonia Mabrouk, Je ne dirais pas qu'il a échoué. Je dirais qu'il n'a pas réussi. Voilà. Je ne me mouille pas ce matin. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas venu avec mon slip de bain. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous parlez en termes... Qu'est-ce que vous dites au sujet de l'insécurité avec Bayonne?
Écoutez, je veux qu'on parle de Bayonne autrement. Bayonne, je veux qu'on parle aussi des trésors de Bayonne. Il n'y a pas que la sécurité. Le jambon de Bayonne. Le jambon cuit, le jambon cru, le jambon fumé, le jambon... tous les jambons, vous voyez.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de course à l'échalote?
Non, moi, je ne vous parle pas de l'échalote. Mais arrêtez de me parler de bouffe, ok hein. Je veux garder, regardez-moi dans les yeux, je veux garder mon summer body. Dit, avec ce ton allé, bien rose, mon bronzage rosé, c'est un inédit.
À vous, Julie.
Ah bah oui, il était temps. Allez Mathieu, vous voulez bien prendre la parole?
Avec
on vous plaisir. Écoute avec plaisir. Allez,
oui, allez, bonjour, bonjour Julie. Bonjour ses auditeurs, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Bouclard, l'info du jour. C'est le courage, disons-le, le courage, parce que toutes les rédactions ne sont pas courageuses, mais c'est le courage, là, il faut le signaler, de la rédaction de Charlie Hebdo, qui republie les caricatures de Mahomet en ce jour d'ouverture du procès des attentats de 2015. Bon, les amis de Charlie, c'est le plus bel hommage, mais pensez quand même, les gars de Charlie, à garder vos masques anti-Covid. Hein, comme ça, personne ne saura que vous bossez pour Charlie. On ne vous reconnaîtra pas. Et en plus, accessoirement, vous ne choperez pas le Covid. Et oui,
accessoirement.
Et oui, Julie, les chers amis de la rédaction, les temps changent. Hein, des gens qui ne supportent pas la critique, qui n'ont pas d'humour, pas de recul. Et une fois aveugles en leur prophète, en 2015, vous vous souvenez, on appelait ça des islamistes radicaux. Et en 2020, on appelle ça des fans de Didier Raoult. Ils sont quand même un chouille. Vous en conviendrez, ils sont quand même un chouille moins dangereux. Voilà. Et puis ce matin, c'est le procès, il faut le signaler, le procès sera entièrement filmé pour l'histoire. On ne sait pas encore. On en a parlé avec Virginie Fulpin. On ne sait pas encore qui de Beansport, de SFR Sport ou de Téléfoot aura les droits de rediffusion. Affaire à suivre avec Virginie Fulpin.
Eh ben, on suivra ça alors, Mathieu Béliard. Première tension au sein du nouveau gouvernement de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti a réfuté le terme d'ensauvagement de la société utilisé par son collègue Gérald Darmanin. Et ça s'est passé sur notre antenne, avec vous, Sonia Mabrouk.
C'est chez moi que ça s'est passé, chez Sonia, et oui, c'est chez moi. Je peux vous dire que j'ai mis un beau bordel dans le gouvernement dès le 1er septembre. Et je ne suis pas peu fière, ma chère Julie, non, pas peu fière.
Ouais, bonjour, c'est Jean-Pierre Casbah.
C'est Jean-Pierre, mais oui.
Eh ouais, c'est ma protégée, ma soso, ma gnagna, ma Sonia. C'est l'école Jean-Pierre Elkabbach. Une question, fallait poser la bonne question. La question. Et là, on fout la merde au Conseil des ministres dès le premier jour de la rentrée. Bravo, ma soso, ma gnagna, ma Sonia.
C'est réussi, oui. Merci. Alors, Jean Castex a tenté d'éteindre l'incendie en réconciliant Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Très tôt ce matin, on a un document sonore. Écoutez ça.
Bien. Bonjour, merci à tous les deux, cher Éric Dupond-Moretti, monsieur le ministre. Asseyez-vous, cher Gérald Darmanin. Si, serrez-vous la main tout de même. Allez, asseyez-vous. Merci d'avoir chacun respectivement répondu à mon invitation. Je vais vous demander, cher Éric, s'il vous plaît, Éric, de ne pas fumer le cigare dans la pièce, comme il n'est que 8h30 du matin, vous en conviendrez.
Monsieur le Premier ministre, je fume pour me détendre simplement, parce que j'ai vite fait d'être énervé. Donc si vous permettez, je fais ce que je veux, d'accord?
Bien, écoutez, j'entends cet argument, il a... du sens. Bien, écoutez, d'accord. Alors, voilà, juste je vous donnerai, cher Éric, de ne pas me cracher votre fumée au visage. Voilà. Voilà. Ce n'est pas très important. Alors, venons-en au sujet qui nous intéresse. Donc, la rentrée se passe, ma foi, bien. Hein, nous en sommes d'accord.
Il y a un tic-tac derrière.
Les Français sont contents. Ils suivent les consignes que j'ai données. Et j'en suis satisfait. Papi et mamie
ne vont pas chercher les enfants à l'école. C'est déjà une belle avancée. Tout va bien. Par contre, je voudrais vous dire, cher Gérald, cher Eric, vous avez fait tous deux une petite bêtise. Hein, vous, si. Si, 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 vous êtes chamaillé dans les médias, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Je vais devoir, pardonnez-moi, mais vous houspillez comme des petits coquinous. Hein. Alors.
Attends. Monsieur le Premier ministre, non mais tu. Qu'est-ce que. Non mais qu'est-ce que tu vas faire, Hugolin, hein?
Hugolin, il
l'a quoi, tu vas nous envoyer au piqué, c'est ça? Non mais regarde-toi, franchement. Regarde ta cravate, ton nœud de cravate, commence par arrêter de repasser tes nœuds de cravate. Ils sont tout plats, espèce de pecnos.
Oula.
Alors, je sens de la taquinerie et de l'humour dans votre propos, cher Eric. Je vous rappellerai tout de même que vous parlez au Premier ministre de notre beau pays tout de même.
Bon, les minutes, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que je peux retourner bosser, hein? Parce qu'avec l'ensauvagement, hein, avec les sauvages, la banlieue, je vous le rappelle, est à feu et à sang. Je dois, et je me suis engagé à la passer au jet d'eau. Oui, bah écoutez, pardonnez-moi, mais je fais tout comme Sarkozy, mon idole, mais en moins bien.
Ça y est, recommence le nain priapique.
Oh là là, mais vous êtes pas bien.
Tu ne me parles pas comme ça, Biloute.
Oui, mais écoute, sors si t'es un homme, sors. Je vais t'écraser mon cigare dans la tronche.
Bon, eh bien, écoutez, voilà une bonne chose de faite. Je crois avoir rétabli le dialogue entre vous. Lâchez-vous, voilà. Hein. Le dialogue est rétabli. C'est un contact, ma foi, positif entre vous deux.
C'est ça. Allez, félicitations. Bravo, c'est réussi. Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère s'ouvre donc aujourd'hui. Il fait le tour des médias pour en parler. On reçoit le président de l'époque, monsieur François Hollande. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis Charlie. Enfin, je suis François, bien sûr, mais je suis aussi Charlie.
Oui, 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 bah, on a compris.
C'est pas encore sur mon passeport,
mais c'est bon.
Je suis François Charlie.
Bon, oui, on a compris, c'est bon.
Oui, d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas arrivé, je tiens à le noter, sous le quinquennat, enfin le septennat à l'époque de Gérald de Gaulle, parce que si le grand Charles avait dit « bonjour, je suis Charlie », ça aurait créé une forme de familiarité peu habituelle et un peu, disons-le, dérangeante.
Disons-le.
Bah tiens, d'ailleurs, vous êtes toujours Charlie, alors que le journal vient de publier les caricatures de Mahomet, hein ? Vous êtes toujours Charlie.
Alors, je suis Charlie, ça c'est une certitude, mais avant tout, je suis lâche. Donc, si vous permettez, je ne vais pas me positionner sur cette question
D'accord, voilà. Ok. François Hollande, tout le monde s'accorde à dire que pendant les attentats, vous avez été irréprochable.
C'est vrai, je suis d'accord avec ce regard et avec moi-même. J'étais ce qu'on appelle un grand président. Je me souviens très bien, je vais vous narrer ce moment, je me souviens très bien de cette journée tragique. J'étais dans mon bureau, je regardais Top Chef, je travaillais sur un dossier important. Et quand j'ai reçu un appel urgent, vous savez, la petite ligne rouge et le bouton qui clignote,
oui,
qui me disait,
oui.
Je prends la ligne dans l'immédiateté parce que je suis un homme réactif. Et on me dit, un homme est en train de prendre un otage, un hypercachère. Il a une mitraillette et on entend des rafales de tirs. Quelle fut ma première réaction? Ma première réaction était bien sûr de demander, est-ce que des saucissons ont été touchés?
Oh non, arrêtez.
On m'a répondu, probablement. Alors là, quand j'ai compris qu'il y avait urgence, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, il faut intervenir.
Eh ben dites donc, c'est passionnant comme anecdote, ça.
Mais vous souriez, j'entends quelques rires autour de vous. Mais heureusement que vous aviez moi comme président.
Oui.
Moi qui ai eu la présence d'esprit de dire il faut intervenir, et ce dans l'immédiateté. Imaginez que si Macron avait été président à l'époque, peut-être il aurait dit laissez ce Koulibaly tuer tout le monde. Peut-être il aurait dit cette phrase-là. Mais moi, non, j'ai fait l'opposé.
Eh ben bravo.
J'ai dit il faut intervenir.
Bravo, c'est magnifique. François.
Et après, quand il a été arrêté et que tout était bien revenu au calme et l'endroit sécurisé, eh bien, courageusement, je me suis dit, tant pis pour la fin de Top Tant pis, pour la fin de ton dossier, François, tu dois te rendre sur place, sur le terrain, comme un reporter de guerre. Et je me suis rendu sur place et j'ai prononcé cette phrase historique. Et j'ai dit... Et dis donc, quel bordel! Voilà, mon récit de cette période sombre de notre histoire.
Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard. Pour vous servir, et l'actualité, c'est Neymar. Vous le savez, le Neymar, la star du PSG qui a contracté le Covid-19. Mm-hmm. On espère qu'il va bien, parce que si, franchement, s'il a les poumons aussi fragiles que les chevilles, il est mal barré. Ça se trouve, même, il est déjà mort. Mais bon, c'est pas grave, puisque vous le savez, Emmanuel Macron, on en a parlé, injecte 100 milliards d'euros dans l'économie, et avec 100 milliards, on le sait, le PSG peut s'acheter Messi. C'est peut-être un peu juste, au moins le pied gauche. Et puis l'autre actu, c'est le coup de gueule. On l'a vu en boucle dans les médias d'Emmanuel Macron contre Georges Malbruno, le journaliste du Figaro, qui a été humilié devant 40 personnes. Et ça, c'est comment ça? Comment ça, je l'ai humilié? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est de la désinformation, monsieur Béliard. Ce n'est pas professionnel. Vous désinformez, monsieur Béliard. C'est contre-productif et mesquin. Vous n'honorez pas votre métier. Vous n'honorez pas les journalistes, ni d'ailleurs le métier des coiffeurs. Voilà. Tranchez les mêmes vues.
Coiffeur, c'était pas prévu, ça.
C'est en me regardant, ça lui est venu comme ça.
Il fait son grand retour aujourd'hui en politique au niveau national, dans le cadre du plan de relance de la France. François Bayrou est nommé haut commissaire au plan et à la prospective. Bonjour François Bayrou. Madame Julie,
Mazeltov. Enfin, monsieur Mohamed, madame Leclerc, monsieur Cabrol, monsieur Béliard, enfin, on me confie une mission à mon niveau. Au commissaire, au plan et à la productive.
Prospective.
Le plan, disons les mots, oui, pour que les Français resituent. Le plan le plus ambitieux depuis De Gaulle.
Ah oui, sûrement. Oui. Ce plan doit préparer la France de 2030, hein, monsieur Bayrou.
C'est cela même. La France de 2030 sera donc la France de François Bayrou. La France de 2030, comment vous dire, sera une sorte de grande agglomération de peau.
De peau PAU. Oui,
avec des... Il n'y avait pas de vanne là-dessus. N'essayez pas de chercher quelque chose de drôle, d'inventer. Contentez-vous de rester dans votre fonction. Moi, par contre, je suis en haut.
Oui. Voilà.
Dans l'agglomération de Pau, la France, une grande Pau, voilà, avec des rues, des avenues, des trottoirs. Ça fait rêver.
Ah oui. Alors, d'après le décret, vous serez chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État, et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Mais ça veut dire quoi, au juste?
Oh! Oh! Oh!
Oh, quoi? Au commissaire?
Non, aucune idée. Aucune idée de ce que cela veut dire. En tout cas, la certitude que j'ai, c'est que ça va me faire des grosses cartes de visite. Si on doit tout mettre dessus. En tout cas, ça montre à quel point le président de la République pense que je suis con. Que je suis con, que je suis compétent. Pour me confier autant de domaines.
Bien sûr. Enfin, vous ne pourrez ni assister au Conseil des ministres, ni entrer au gouvernement. Et puis en plus, vous ne serez pas payé. Vous saviez ça? Vous ne serez pas payé, monsieur Bayrou.
Comment ça, oui, c'était drôle. Non, mais pas payé. Mais attendez, rassurez-moi, même, Julie, puisque je sais que vous êtes informée. C'est pas un placard, au moins. Parce que moi qui pensais que le président de la République voyait en moi le digne successeur des gogoles, des gaullistes. Là, ça me trouble.
Que d'émotions. Merci, monsieur Bayrou. À bientôt, donc. Hein. Gérald Darmanin a décidément créé...
À bientôt.
Gérald Darmanin a créé des remous en parlant d'ensauvagement de la société, un terme habituellement employé par l'extrême droite. Hein. Marine Le Pen, c'est vous qui avez popularisé ce terme la première.
Oui, bonjour là.
Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toi, jolie métisse. Et comme tu es bronzée, oh, je vois qu'il a profité de ses vacances pour sculpter son corps. Puis ce look, oh là là, cheveux au vent, ce petit bouc de, comment dirais-je, de guitariste de rock grunge californien.
Au moins ça,
c'est
oui.
Travailler tout ça, le genre surfeur qui écoute du death metal sur Venice Beach. C'est moi que tu veux ensauvager, jolie métisse.
Calmez-vous, madame Le Pen, allez.
Écoutez, je rentre un petit peu de légèreté.
Alors, on revient au sujet de l'ensauvagement.
Écoutez, madame. Oui, je suis choqué d'entendre M. Darmanin utiliser ce terme d'ensauvagement, parce que, le savez-vous certainement, c'est un de mes concepts. Donc il chourave, le petit bâtard. Moi, j'ai envie de m'adresser à lui. Où sont les caméras? Dites donc, Sarko Junior, tu crois que je ne vais pas essayer de me faire le coup, le même coup que ton père spirituel, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, écoutez,
il essaye de me piquer mes électeurs, vous le savez bien, comme... Monsieur Sarkozy avant lui, vous allez voir que dans 3 semaines, Madame Leclerc,
oui.
Vous allez voir qu'il va parler du grand remplacement anti-blanc, du racisme anti-blanc, pardonnez-moi. Non, franchement, alors que je cherche des concepts en permanence, c'est à vous dégoûter de bosser. Tiens, je lui tendre un piège. Pour voir s'il va me piquer mon concept. J'ai envie de vous parler ce matin et de dénoncer sur votre antenne la couscoussisation de la société.
Ouais. Enfin, mais vous n'êtes pas bien, c'est affreusement raciste.
Oui, mais on va voir si Darmanin me le pique. Mais on va voir si je lui donne 15 jours avant de reprendre mon concept de couscoussisation de la société, voire même de tagination de la France. Dans une de tes merveilleuses interviews, je lui métisse.
Tagination, c'est plus facile à dire que couscoussisation. Hein.
Oui, on s'en fout, madame, de ce que vous racontez.
C'est vrai, en plus. Bon, allez, la rentrée des classes est plutôt bien passée, mais de nombreuses questions se posent. Eh bien, le mieux, c'est qu'on pose ces questions au ministre de la Santé. Bonjour, Olivier Véran.
Bonjour à tous, votre cabinet. Bonjour à mes deux confrères, Jimmy et Mohamed. Merci de m'accueillir, d'autant que je suis en mesure de vous parler, puisque, vous le savez, le Haut Conseil scientifique médical de la santé, pour être en forme, en a donné l'autorisation. Je valide tout ce que je dis par le Haut Conseil scientifique médical de la santé pour être en forme.
Alors, nous avons deux petites questions à vous poser, Monsieur Véran. Vous voulez bien y répondre ?
Eh bien, je serais ravi d'y répondre, d'autant que toutes les réponses ont été validées par le Haut Conseil scientifique médical de la santé pour être en forme.
Alors, première question, les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants à l'intérieur de l'école ?
Oui. Mmh. J'ai le plaisir de vous dire oui, ils le peuvent. Mais c'est quand même la honte pour l'enfant, vous le savez. Qui souvent préfère que son père, son papa, le laisse à 700 mètres de l'école. Je vous en prie, monsieur Vandel, entrez. Si on peut prendre la température de monsieur Vandel avant d'entrer. Donc souvent, vous le savez, le père laisse l'enfant à 700 mètres de l'école pour faire semblant qu'il arrive tout seul. Sauf dans le cas, nous le savons aujourd'hui, de Mathieu Béliard, où on nous a rapporté que ses parents avaient honte, puisqu'il avait déjà le bouc dès l'âge de 11 ans. Excusez-nous, c'est un bordel en studio aujourd'hui. Vous sentez que plus personne ne rit à mes vannes, mais c'est parce qu'il y a un gros bordel en studio. Ce n'est pas une question d'écriture.
Alors, deuxième question,
merci,
l'école.
Merci, Mme Vandel, d'avoir plombé ma chronique. Rassurez-vous, je vendrai l'appareil dans 5 minutes.
Deuxième question, Monsieur Véran. L'école doit-elle fournir gratuitement des masques, vu que le port du masque est obligatoire?
Vous n'êtes pas sans savoir, Madame Leclerc, qu'à l'école, le port du slip est obligatoire.
Ah bah oui, aussi, oui.
Et pour autant, on ne demande pas à l'État d'offrir des slips à chaque élève. On vous a jamais offert un slip, Monsieur Vandel?
Non. Voilà.
Je vais vous laisser parce que le Haut Conseil scientifique médical de la santé pour être en forme me recommande de ne pas rester plus de 5 minutes dans un lieu clos avec des personnes âgées en situation de fragilité.
Et pour le regard, c'est pour moi. Eh ben, c'est très gentil à vous, hein, Monsieur Véran, à bientôt.
Je vous en prie.
La maire de Paris va porter plainte contre le cimentier Lafarge. En effet, une de ses usines, hein, qui est située sur les berges de la Seine, rejetait, semble-t-il, volontairement du béton dans la Seine. Un de ses représentants est avec nous. Bonjour Monsieur Roger Lafarge.
Ouais.
Vous regrettez cette... la tête de Lafarge. Vous regrettez cette pollution, monsieur ?
Ouais, 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 bonjour. Oui, bien sûr, on regrette. On est désolé. Hein. Patin, couffin, tout ça. Bon. En même temps, j'ai un argument. C'est un argument Lafarge. Un argument en béton. Oh, notre argument en béton, c'est qu'on n'a pas fait exprès. Voilà. Bon, ça fait 10 ans qu'on ne fait pas exprès. Et je vous garantis, il n'y aura pas de 11e année. Puis bon, ouais, la nature, on respecte tout ça. Mon cul sur la commode. Bon, bref, franchement. Non, faut se calmer. C'est rien qu'un peu de ciment. Ouais. Qui a été déversé par mégarde dans l'eau. Dans 8 jours, ça se verra plus. Hein, les poissons. Ah bon, les poissons, croyez-moi, je suis pêcheur moi-même. Les poissons auront tout bouffé.
Ah bah d'accord, voilà. Merci. Hein. Après, ça va dans l'estomac des poissons. Hein.
Et alors bah. Vous les mangez, vous, les poissons de la Seine? Non. Bon, alors, jamais la vie. Vous avez la gueule qu'ils ont, les poissons. Ils sont radioactifs, ils sont pleins de ciment. Faut pas manger des trucs comme ça. Là, moi, je suis pêcheur, je peux vous dire, sur une truite de 2 kilos, t'as 1,5 kg de ciment. Non, Et que fait l'État? Je pose la question, parce qu'il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Que fait l'État? Ça, pour nous casser les couilles avec des normes européennes et tout, ouais, ça vient du
non.
monde.
Attendez, hein? Non, mais la Seine, elle est dégoûtante parce qu'elle est polluée par vous, justement.
Ah, ça y est. Alors, je vois, oui, on fait le lien. D'accord, oui. Je vois ce que vous voulez dire. Tout de suite, ça va être notre faute.
Bah, un peu quand même.
On déverse du ciment dans la Seine, ça va être notre faute. Mais rassurez-vous, de toute façon, le problème, nous, on voit l'avenir. Mmh. Voilà, l'avenir. On ne regarde pas dans le rétroviseur. L'avenir, le problème est réglé. Il y avait un trou dans la cuve, on l'a bouché. Mmh. On a bourré avec des chiffons, Chatterton, le t-shirt à Jean-Louis, on a mis. Voilà. Vous pouvez nager tranquille. Vous voyez, je vais vous faire un scoop, monsieur Béliard. Je m'engage devant monsieur Mohamed, monsieur Van, devant tout le monde. Tous les auditeurs, je m'engage, on ne déversera plus dans la Seine. Voilà, je m'y engage, on déversera dans la Loire, le Rhône.
Sonia Mabrouk qui s'en invitait.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, bonjour. Alors, quel est le bilan de cette première semaine de rentrée, Jean-Michel Blanquer?
Écoutez, Sonia Mabrouk, malgré ce que l'on a dit, pense que... Je vous remercie, madame Julie, de ce jugement. Hâtif, peut-être, mais en tout cas, je le prends. C'était une semaine, une rentrée qui s'est, je crois, très bien passée. Il y avait, je crois, pour chacun d'entre nous, pour les professeurs, les élèves, un vrai bonheur de se retrouver. Tout le monde était heureux. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. N'ayons pas peur des mots, comme dirait Marc Lévy, la vie est belle, les fleurs poussent et les élèves sont bien vivants.
Formidable, Jean-Michel Blanquer. Et sur l'ensauvagement, quelle est votre position? Pourriez utiliser ce mot d'ensauvagement ce matin, Jean-Michel Blanquer?
Écoutez, sur ce mot, je ne suis pas adepte de ce mot d'ensauvagement, même si en même temps, il faut décrire une forme de réalité de la société. Mais c'est vrai, je ne suis pas fétichiste de ce mot. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a certaines violences qui nous entoure et que l'on constate dans les établissements ou ailleurs, dans la vie civile. Mmh. Et en même temps, je ne suis pas pratiquant de ce mot. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une forme de réalité. Et en même temps, je suis enfin, vous l'avez peut-être compris, mais en même temps, je suis emmerdé. Voilà. Je préfère d'autres mots comme bonheur, comme même clafoutis ou dromadaire. Je préfère ce genre de mots.
Merci Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous Sonia. Allez, tout de suite, le principal titre de l'actu avec vous Mathieu Béliard.
Oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. L'actu du jour, c'est bien sûr ce plan de relance annoncé par le Premier ministre Jean Castex. 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est une vraie somme.
Et bonjour, bonjour, c'est votre serviteur Jean Castex, Miss Lotto, et bienvenue au grand tirage de la française de la relance. Un tirage exceptionnel aujourd'hui, puisque la somme en jeu, mesdames, messieurs, chers concitoyens, de 100 milliards d'euros, tout de suite, Maître Boulier, le tirage au sort. Alors, ça clignote ou pas? Est-ce que nous avons un gagnant? Oui, oh là là, ça clignote de partout, plusieurs gagnants, même puisque ce sont... Oh là, oui, je vois les noms qui s'affichent, ce sont les entreprises françaises qui l'emportent. Nous sommes désolés pour les smicards, les soignants et autres professeurs et policiers. On vous augmentera un autre jour. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous.
Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, Patrick Belkadi.
les 100 milliards, comment on fait pour, voyez ce que je veux dire, pour en avoir un petit bout, quoi. On s'inscrit à un truc, on remplit un formulaire CERFA, il y a quelque chose, c'est quoi, c'est pas, non, parce que si c'est pour les entreprises, moi j'en ai plusieurs au Panama, aux îles Caïmans, qui sont à l'arrêt, vous voyez ce que je veux dire, elles manquent de moyens. C'est important, monsieur Castex, de nous aider, nous les PME, hein.
Oui, allez, c'est bon, merci à tous les deux.
Merci.
Ce plan de 100 milliards bénéficiera surtout aux entreprises. On est avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oui, sur ce point, il n'y a pas de débat. Ce matin, vous pouvez vous réjouir, l'argent va ruisseler. L'argent, oui, disons les mots, va couler à flot. Vous allez vous rouler dans le pognon. Monsieur Béliard, vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez pouvoir vous offrir une nouvelle coupe de cheveux.
Alors, cet argent doit servir pour l'emploi et la transition écologique. Mais quand on vous a demandé ce qui allait se passer si les entreprises ne respectaient pas ces conditions, vous avez déclaré « Nous attendons des entreprises qu'elles jouent le jeu. Contrepartie n'est pas conditionnalité. » En gros, c'est pas contraignant, quoi.
Hein? Et allez, ça y est, j'entends la gauchiste qui sort de sa boîte.
Non,
ce n'est pas contraignant. Mais vous savez quoi, Mme Julie, je vais vous dire les choses. Nous estimons que les entreprises, les grands patrons, sont des gens responsables. Hein? Vous savez, je vous propose, puisque vous avez un standard qui ne sert pas toujours à grand-chose, je vous propose d'appeler. Non, vous ne donnez pas toujours la parlorosité aux auditeurs. Je vous propose, tiens, allez-y, jouez le jeu. Appelons ensemble, si vous voulez, un patron pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et vous verrez qu'il sera sensible aux grands défis qui attendent la France de demain. Suis sûr que ce sont des gens responsables.
Mais si vous voulez, on va appeler le patron avec qui on était hier. Hein, monsieur...
Écoutez, je suis prêt à discuter avec lui.
Ok, monsieur Roger Lafarge du cimentier Lafarge.
Allô, attendez.
Allô, monsieur Lafarge.
Deux secondes, excuse-moi.
Monsieur Lafarge.
Mais c'est un peu la musique, là, il y a le téléphone. Ouais, mais on ne s'entend pas, là.
Monsieur Lafarge.
Non, remets ton slip. Descends de la table. Descends de la table, là. Oh, putain. 100 milliards, ils vont nous mettre.
Monsieur Lafarge.
Ils nous ont servi avec le CICE. 40 milliards, ils nous ont servi sur un plateau. Putain, 100 milliards, là. Qu'est-ce qu'il va me faire, toi?
Monsieur Lafarge.
Tu veux un bateau? En bon. Prends ça, je suis au Mercury. Bien. Attends.
Monsieur Lafarge.
J'ai oublié. Allô?
Monsieur Lafarge. Monsieur Lafarge. Oui, c'est Bruno Le Maire, le ministre des Finances et des Comptes Publics. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez bénéficier du plan de relance de l'État à 100 milliards.
Ouais, monsieur le ministre, ouais, nous avons appris ça.
Oui.
J'ai envie de dire merci.
T'en prie.
C'est sympa. Ouais, franchement, vous n'êtes pas rancunier, hein, nous,
ah ben...
du ciment dans la Seine, et vous mettez 100 milliards dans le tuyau. Quelque part, les écolos dans le cul. Et les écolos, je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais ils n'avaient qu'à faire du business, hein, au lieu de jongler pieds nus à des feux rouges. Là,
Alors, monsieur Lafarge, ce plan, on l'a dit, n'est pas contraignant. On compte sur vous sur le redistribuer. C'est la théorie du ruissellement. Qu'en pensez-vous?
Non, mais vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Voyons, là, on est avec notre collègue patron. Je suis avec eux, là, du CAC 40, et on est justement en réunion au jacuzzi, en réunion de travail, là. Avec Jean-Michel, ils sont là, ouais, ils sont tous là. Ils vous saluent, d'ailleurs. Jean-Michel Auchan, il y a Patrick Gauliac,
il y a
Hubert Carrefour, Joseph Vivendi.
Saluez-les pour moi.
Ils sont là. Et voilà, non, on est responsable, on prend conscience de nos responsabilités, on sera responsable et arrête. Ouais, ça va bien. Ouais, ça, vous inquiétez pas, monsieur le ministre, ça va ruisseler. Ouais, ça ruisselle depuis ce matin.
Eh bien, écoutez, merci, messieurs. Je suis heureux d'entendre votre sens de la responsabilité ce matin. Ça fait du bien d'entendre que les entreprises se réjouissent d'aider leur pays. Ça, c'est du, j'ai envie de dire, du vrai patriotisme. Merci, messieurs.
Alors, évidemment, depuis l'annonce de ce plan de relance de 100 milliards qui doit créer 160 000 emplois, le CICE est dans toutes les conversations. Bonjour François Hollande.
Oui, bonjour. Écoutez, vous risquez de vous surprendre, ce matin je serai direct.
Mm-hmm.
Ce plan de relance
C'est de la merde en boîte.
Non, monsieur Hollande, enfin, 100 milliards, c'est très ambitieux.
Mais très ambitieux, très ambitieux, très ambitieux, c'est... Pff, c'est trop facile. Ils font rigoler tout ça en sensé, Castex. Hein, sauver le pays avec 100 milliards, mais c'est trop facile. Hein, c'est comme gagner le Tour de France avec une Formule 1. si moi, on m'avait donné 100 milliards, moi aussi, je bluffais tout le monde. Il n'y a pas de quoi fanfaronner aujourd'hui. Moi, souvenez-vous, quand j'avais annoncé le CICE, je n'avais que 40 milliards en poche.
Oui, mais enfin, le bilan du CICE, il n'est pas bien reluisant. Hein. On parle de 100 milliards de dépenses, au final, pour une création d'emplois qu'on estime entre 200 000 et zéro. Hein. Alors, si ça se trouve, ça n'a servi à rien, votre truc-là.
Non, mais votre truc-là, non, mais vous savez quoi, vous êtes très direct avec vous. Ce que vous faites, là, ce n'est pas professionnel. C'est très mesquin. Hein. Ça en a créé. Oui, moi aussi, je peux le faire, mon Macron. Ça crée des emplois. Voilà, ça crée des emplois. Des emplois de nombreux emplois. Des agents d'entretien sur des yachts de gros actionnaires. Femmes de ménage dans des villas de dirigeants à Saint-Tropez ou ailleurs. Des métiers qui comptent, croyez-moi, à Megève, à Saint-Barth, à Courchevel. Il n'y a plus un seul chômeur.
Eh ben, merci, monsieur Hollande. Allez, pour terminer, un petit mot sur le tennisman Benoît Paire. Vous savez, il a été exclu du tournoi de l'US Open pour avoir été contrôlé positif à la Covid, mais qui a critiqué le protocole du tournoi. Bonjour Nelson Montfort.
Bon, et bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous, cher Jimmy, cher Laurent. Quel soulagement pour Nadal et Djokovic. Benoît Paire, le grand Benoît Paire exclu. Ils vont peut-être avoir enfin une petite chance de gagner le prestigieux tournoi. Oh, je ris tout seul, pardonnez-moi, non, je plaisantais, vous l'avez compris. Il ne savait même pas qui est Benoît Paire, les malheureux. Alors, Benoît Paire, pardonnez-moi, a été positif à la Covid-19, mais toujours pas au service gagnant, ni au coup droit, ni positif au revers ou au passing shot réussi.
Vous comprenez, Nelson, la décision des dirigeants de l'US Open, dirigée contre Benoît Paire?
Oui, c'est très compréhensible, ma chère Julie, parce que vous le savez, on ne joue pas au tennis avec des gants de façon précautionneuse, donc le Français va infecter toutes ses balles et malheureusement, vu le manque de maîtrise des trajectoires, la maladie va se répandre. On a déjà retrouvé des balles de Benoît Paire à plus de 35 km du cours où jouait Benoît. Donc si on veut éviter la propagation du virus, gardons Benoît en quarantaine à vous Paris.